Alors, le titre de cette présentation est un peu provocateur, puisque finalement, on nous a expliqué tout à l'heure que la méthode scientifique, par essence, elle favorisait l'esprit critique. Et ben, mon expérience montre que ce n'est pas toujours le cas. Donc, par rapport aux deux exposés qu'on a eus ce matin, moi j'aurais une approche qui n'est pas philosophique, qui n'est peut-être même pas scientifique. C'est-à-dire qu'il sera beaucoup question de quelque chose qui ne vaut pas grand-chose, j'ai appris, c'est un témoignage. Autrement dit, je vais vous parler de l'expérience que nous avons acquise dans ce groupe de l'IRES. Là, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Autrement dit, beaucoup de choses dont je vais vous parler, ce sont des choses que nous avons vécues. Enfin, moi, ça fait à peu près 10 ans, hein, que je m'intéresse à ce problème-là. Mon public principal, c'est des professeurs, mais nous avons à l'IRES des professeurs dont le public, c'est des élèves. Donc finalement, toute l'échelle est représentée. Donc moi, je suis maître de conférence à l'université Paul Sabatier, je suis biologiste, je suis enseignant-chercheur, mais je participe beaucoup, depuis longtemps, à la formation des profs. Donc soit la formation initiale, en premier cycle, second cycle, mais également à la formation continue, donc avec la Maison pour la Science, donc je suis le directeur scientifique, mais également à l'accompagnement des jeunes profs, comme l'a expliqué Benjamin tout à l'heure, dans le cadre de l'INSPE. Et dans le cadre de l'IRES, qui est une structure de la Faculté des sciences et ingénierie de Toulouse, l'IRES, c'est ce qu'on appelait avant l'IREM. L'IREM, beaucoup de gens en ont entendu parler, il y en a dans toutes les universités, c'est l'Institut de recherche pour l'enseignement des mathématiques. Ça a été inventé, je ne sais pas par qui, il y a 50 ans, quand on a mis ce qu'on appelle les maths modernes au programme scolaire. Et les maths modernes, les profs de maths, ils ne savaient pas ce que c'était. Alors il a fallu les former. Et donc on a inventé, on a créé dans chaque université un institut spécialisé là-dedans. Et il se trouve qu'à Toulouse, il a été décidé il y a, je ne sais plus, 4-5 ans, 6 ans, merci, de transformer l'IREM en IRES, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux maths, mais aussi à toutes sortes de sciences expérimentales. Voilà. Donc, je vais reprendre très très vite quelques définitions, mais elles ont été déjà amplement décrites tout à l'heure, donc ça va aller très vite, sur savoir ce que c'est l'esprit critique finalement. Alors on peut avoir une approche un peu institutionnelle. Ce que je vous montre ici, c'est un document de 2013, mais qui est toujours d'actualité. C'est assez intéressant, c'est le référentiel de compétences de tous les personnels de l'éducation nationale, c'est-à-dire les professeurs, mais aussi les autres personnels. Autrement dit, ce sont les compétences doivent faire preuve tous les gens qui travaillent dans un établissement scolaire. Et vous voyez que très 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 vite arrive dans ce paragraphe faire partager les valeurs de la République, donc aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou des croyances. Voilà. Et je trouve que ça, c'est quand même une assez bonne entrée opérationnelle, concrète, pour définir ce que peut être l'esprit critique, différencier des savoirs ou des connaissances scientifiques, des opinions ou des croyances. Alors, à côté de ça, une fois, nous avons fait une formation, toujours à des profs, et il y avait un professeur de philosophie qui participait avec nous, qui s'appelle Jacques Dupuy, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, et qui nous donne cette définition de l'esprit critique que je trouve absolument lumineuse. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a formulée ou s'il l'a récupérée d'un auteur, mais je trouve que c'est très très bien dit. Faire preuve d'esprit critique, c'est résister à la tentation de tenir pour vraie une affirmation sans faire usage de la raison. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est résister à la tentation. Autrement dit, ce dont il faut se méfier, c'est de nous-mêmes. Avant de nous méfier de tout le monde, des gens mal intentionnés, etc., faire attention qu'en réalité, notre ennemi, il est dans notre cerveau. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est le système 1. Alors, quant à faire usage de la raison, ça peut se préciser différemment suivant les disciplines. Voilà. Et enfin, ce que j'ai trouvé, notamment dans des écrits de la main à la pâte, c'est que parfois, faire preuve d'esprit critique, c'est reconnaître que l'on ne sait pas et que l'on ne peut pas savoir. Alors, on a parlé de physique quantique tout à l'heure, pourquoi pas de physique des particules, etc. C'est évident que tout le monde ne peut pas savoir. À ce moment-là, eh bien, il faut être capable de calibrer sa confiance. À qui je peux faire confiance pour évaluer une affirmation. Voilà, donc je trouve que c'est les trois définitions qui sont très simples, qui sont opérationnelles, qui sont loin d'être philosophiques, de l'esprit critique. À côté de ça, c'est quoi la méthode scientifique? Alors on pourrait en parler l'après-midi entière, alors je vais juste reprendre des choses très simples qui ont été formulées par Guillaume Lecointre, dont on a parlé, et je trouve aussi que c'est relativement simple et opérationnel. Donc les conditions requises pour produire des connaissances objectives, Benjamin en a parlé tout à l'heure, c'est le scepticisme initial sur les faits. Alors, je ne suis pas sûr d'en avoir la même compréhension que Benjamin. Pour moi, c'est l'idée que quand on conduit une recherche, On admet qu'on ne connaît pas le résultat de cette recherche. Je suis sceptique sur ce que sont les faits. Et bien sûr qu'on a une hypothèse et qu'on la teste, bien sûr, bien sûr. Mais si jamais cette hypothèse n'est pas vérifiée, eh bien j'accepte que je me suis trompé. Donc je ne vais pas partir avec une idée a priori. Ça, c'est très important. Ensuite, bien entendu, le raisonnement doit être rationnel et reposer et respecter le principe de parcimonie, donc ça a été dit tout à l'heure, sachant que la rationalité d'un biologiste n'est pas celle d'un physicien, etc., on est d'accord, hein, ou d'un historien, bien entendu. Ensuite, ça c'est très important, c'est la validation collective des connaissances, c'est-à-dire que c'est la base de la communication des découvertes scientifiques ou du travail du scientifique, c'est-à-dire que la première étape, c'est de convaincre ses pairs. C'est-à-dire qu'il y ait un débat entre scientifiques pour valider les connaissances scientifiques. Et cette validation, elle ne se fait absolument pas au journal de 20 heures ou dans des magazines, etc., etc. Elle se fait dans des lieux très spécifiques, dans des revues, des congrès, etc. Et puis, bien entendu, accepter le caractère provisoire d'une vérité scientifique. J'ai mis des guillemets à vérité parce qu'en fait, une vérité scientifique, ça n'existe pas. Voilà. Par définition, même quelque chose qui est très très robuste, eh bien, il faut accepter l'idée qu'un jour ça soit infirmé. Sinon, c'est plus de la science, c'est une révélation. Voilà. Et donc la question, c'est en quoi finalement cette méthode scientifique, elle va permettre effectivement d'activer son esprit critique. Alors, c'est évident. Pour le scientifique, j'en suis un, il y en a pas mal ici dans la salle, c'est évident qu'on ne peut pas faire de la recherche scientifique sans activer sans se méfier de tous ces biais, Denis l'a bien dit, c'est une évidence. La science, oui. Donc être un scientifique, oui, ça permet d'activer son esprit critique dans son domaine de spécialité. Sûrement pas ailleurs. Mais la question n'est pas celle-là. C'est pas, est-ce que pratiquer de la science... ça permet de développer son esprit critique, c'est est-ce que l'enseignement des sciences permet d'augmenter l'esprit critique, par exemple, de nos élèves. Et là, vous allez voir que moi, j'ai quand même des réponses assez mitigées là-dessus, enfin, pas que moi. Hein. Donc, je vais vous présenter deux études américaines qui sont assez décevantes pour des enseignants de sciences, dont je suis. Et après, je vous montrerai ce que nous, on a fait ici à l'IRES par rapport aux professeurs et par rapport aux élèves. Alors, la première étude... Ah oui, alors, pardon, j'ai oublié cette dia, on vous l'a montré déjà. Par exemple, la Fondation La Main à la Pâte, avec laquelle je travaille, et qui a produit ces deux ouvrages, eux, ils sont vraiment convaincus que l'enseignement des sciences, ça favorise l'apprentissage de l'esprit critique, et ils le disent explicitement. Donc, l'esprit critique est au cœur des attitudes et des compétences propres à la culture scientifique, ça, on est d'accord. De ces savoir-faire, il y a beaucoup à apprendre. Nous pouvons en imprégner nos pratiques dans toutes les disciplines et notre vie de tous les jours. Autrement dit, on va transférer ce que nous apprend l'enseignement des sciences. Là, je pense que c'est un vœu pieux. On y croit, mais c'est loin d'être acquis. Alors, première étude relativement décevante. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Denis a cité cette étude-là. Est-ce que être compétent en sciences, ça nous permet d'accepter plus facilement le consensus scientifique. Alors, pourquoi je vous parle de ce consensus scientifique? Je fais référence à la première définition qu'on a donnée, faire la différence entre une connaissance solide et une opinion ou une croyance. On a dit que le consensus scientifique, c'était parmi ce qu'on pouvait avoir de plus solide comme connaissance, comme savoir. Voilà. Donc, est-ce que le fait d'être compétent en science améliore la capacité d'adhésion au consensus scientifique? Alors, vous allez voir que c'est très surprenant. Alors, Kant, c'est un psychologue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interviewé 2000 personnes à peu près, et leur a administré un questionnaire sur les sciences avec du raisonnement, des connaissances, bon, quelque chose de peu vague, vaste. Et il a classé ces 2000 personnes en groupes de 20, c'est-à-dire il a fait des centiles. Chaque groupe, c'est un centième de l'échantillon. Et ensuite, il va les ordonner du premier centile au 99e centile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le 99e centile, vous avez les 20 personnes qui ont eu la meilleure note au test. Parmi le premier centile, vous avez les 20 personnes qui ont eu la plus mauvaise note au test, et ainsi de suite. Donc, il appelle ce que mesure le test, il lui donne un nom, c'est l'intelligence scientifique ordinaire, voilà, OSI, bon, c'est des capacités, un mélange de capacités et de connaissances en sciences. Très bien. Et une fois qu'on a ordonné les gens en centiles comme ça, on va voir comment ils vont réagir à tel ou tel type de question. Première question, très facile. les électrons sont plus petits que les atomes, est-ce que c'est vrai ou faux? Et donc là, vous voyez que si on prend par exemple le 50e percentile, c'est-à-dire la moitié de l'échantillon, la moitié sont moins performants, la moitié est plus performant, mais vous voyez déjà qu'on a 70% de bonnes réponses. D'accord? Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une question relativement facile. Et si on prend le 99e percentile, ben vous voyez que quasiment tous ceux qui sont classés dans ce 90e percentile, ils ont une bonne réponse. Si on pose une autre question un peu plus compliquée sur la proportion des gaz dans l'atmosphère, donc on leur demande quel est le gaz le plus abondant, la bonne réponse c'est l'azote, et là on se rend compte en réalité que la courbe est très nettement décalée sur la droite, donc ça c'est une question qui est plus difficile. D'accord ? Donc le premier percentile est totalement ignorant. Mais ici, il faut attendre... Allez, si je me place au 50e percentile, vous n'avez que 20% de bonnes réponses. Donc, c'est plus difficile. Ici, c'est une question sur les probabilités conditionnelles, sur le taux de faux positifs dans un test de dépistage d'une maladie. Moi, je l'ai posé à des centaines de profs. Je n'ai jamais vu un seul y répondre correctement. Autrement dit, c'est normal. C'est une question très difficile. Donc, la courbe est extrêmement décalée sur la droite. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous expliquer le principe de ce classement. Maintenant, on va leur poser une autre question. Alors, on leur demande si c'est vrai ou si c'est faux que les êtres humains dérivent d'espèces animales antérieures. Autrement dit, est-ce que la théorie de l'évolution elle s'applique à l'espèce humaine? Et donc là, vous voyez que je ne saurais dire si c'est difficile ou si c'est facile. C'est bizarre. C'est-à-dire que si vous prenez les personnes les moins performantes en sciences ici, vous en avez quand même 30-40% qui ont une bonne réponse. Si vous prenez ici les personnes qui sont le plus compétentes en sciences, mais ça ne monte que, allez, à 75%. Autrement dit, la compétence scientifique ne fait que doubler le niveau des plus ignorants. Donc, c'est une courbe qui est tout à fait atypique par rapport aux autres personnes. Alors, vous allez voir que c'est encore plus bizarre. C'est-à-dire que si on stratifie cet échantillon, non seulement en percentile de compétence scientifique, mais en plus, en fonction de leur opinion religieuse, là, vous vous rendez compte que la partie des Américains qui ont un sentiment religieux qui est au-dessous de la moyenne, à ce moment-là, ceux-là sont sensibles à la compétence scientifique, c'est-à-dire le fait d'avoir des connaissances leur augmente leur probabilité de répondre juste, mais pour les autres, ceux qui ont un sentiment religieux très fort, non seulement la science n'a aucun effet sur eux, mais si elle devait en avoir un, vous voyez que la tendance, elle est dans l'autre sens. C'est-à-dire que lorsqu'on a un sentiment religieux, être compétent en science, ça ne veut pas forcément dire avoir fait des études de science, vous immunise contre la science. Enfin, c'est un petit peu fort. Donc ce que vous voyez là, c'est que finalement, le fait d'être compétent en science, ça polarise l'échantillon. Et je vais vous donner un autre exemple sur une autre question. Qui porte sur non pas la religion, mais sur le réchauffement climatique. Donc, le réchauffement climatique, on fait une affirmation, en gros, est-ce qu'il est principalement dû aux activités humaines, comme la combustion de pétrole, de charbon, etc. Et vous voyez qu'on a exactement la même forme de courbe qu'ici, c'est-à-dire que tout le monde en a entendu parler, finalement, et on a 30-40% de bonnes réponses. Le fait d'avoir des compétences en sciences, si ça aide un peu, ça double la probabilité de ne pas se tromper. Mais ici, si vous stratifiez l'échantillon en fonction des opinions politiques, eh bien voilà ce que ça donne. Si vous votez démocrate, ben vous voyez que chez vous, la science a un effet et vous aide à adhérer au consensus scientifique. Par contre, si vous votez pour les républicains, c'est le contraire. Donc vous voyez qu'être compétent en science, ça ne préjuge pas qu'on est capable de faire la différence entre une opinion et une connaissance. Autrement dit, ça ne préjuge pas qu'on fasse preuve d'esprit critique. Donc comme disait Cédric, je crois, c'est les Américains. On va voir. Alors je ne pense pas qu'on ait des études de cette nature en France. Vous allez le faire, c'est très bien. Alors là, on a regardé comment agissait la compétence scientifique. Mais moi, ce qui m'intéresse, puisque j'enseigne les sciences, c'est l'éducation et l'éducation aux sciences. C'est une chose différente. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas avoir fait d'études et d'études scientifiques et être compétent en sciences, et inversement. Donc là, je vais me focaliser sur des résultats qui concernent l'éducation principalement. Donc c'est un autre auteur, c'est un Américain, donc ça a été publié au PNAS, c'est quand même pas rien. Et voilà ce que ça dit. Alors cette fois, on va trier les gens, non pas en fonction de leur compétences scientifiques, mais en fonction du niveau d'études qu'ils ont. Donc il y a trois niveaux, en gros, primaire, secondaire, supérieur, quel que soit le niveau des études, des sciences ou pas. Deuxième colonne, il y a ceux qui ont fait des études supérieures en sciences et les autres. Donc là, c'est typiquement un vrai enseignement scientifique, on va dire, à l'université. Voilà. Et ici à droite, eh bien, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. C'est un classement par rapport à des réponses à des tests. Autrement dit, c'est vraiment, ils appellent ça la littératie scientifique, ça mesure un petit peu la même chose que tout à l'heure. Mais c'est d'autres tests et c'est une autre échelle. Alors, les thèmes que j'ai retenus, parce qu'il y en avait beaucoup, toujours les mêmes, l'évolution humaine, autrement dit, est-ce que l'humain est l'objet, enfin, est le produit de l'évolution, le changement climatique, est-ce qu'il est d'origine anthropique ou pas? Et alors là, ici, c'est autre chose. C'est très intéressant, vous allez voir. C'est en gros, est-ce que c'est dangereux d'avaler des aliments transgéniques? Du fait qu'ils soient transgéniques, d'accord? Donc, on fait une généralité. Est-ce qu'en fait, le fait d'avoir modifié génétiquement une plante, est-ce que ça la rend toxique, en gros? Voilà. Et alors, bien entendu, on va stratifier ces échantillons ici en fonction de l'identité politique. Alors, vous voyez, c'est plus donc, extrêmement conservateur, extrêmement libéral. Vous avez toute une gradation qui est faite. Eh bien, ce que vous voyez ici, par exemple, c'est que pour ce qui concerne l'évolution humaine, toujours pareil, le fait de faire des études un peu plus longues, ça polarise complètement les opinions sur l'évolution humaine en fonction du fait que vous êtes très conservateur ici ou très libéral. Autrement dit, quelqu'un qui est très libéral, le fait s'il fait des études longues, ben, il y a de plus de chances qu'il réponde juste à cette question. Quelqu'un qui est très conservateur, c'est le contraire. S'il a fait des études de sciences, ça ne change absolument rien. Si on mesure ses compétences scientifiques, c'est à peu près la même chose. Autrement dit, l'enseignement scientifique sur cette question-là, ben, il n'est pas efficace, on peut le dire comme ça. Si on s'intéresse au changement climatique, alors avec des nuances, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ce qui prévoit le plus ce que vous pensez, c'est plus votre identité politique que votre niveau d'éducation. Et pour les compétences encore pires, les courbes se croisent là. Par contre, ça c'est très intéressant parce qu'on est en France, vous voyez qu'en fait, l'opinion sur est-ce que c'est dangereux de manger des aliments transgéniques, bien vous voyez que ce n'est pas un débat en Amérique. Tout le monde s'en fout, regardez. Que vous ayez fait des études longues ou pas, très très peu d'écart. Très très peu d'écart en fonction des opinions politiques. Faire des études de sciences, ça ne change pas grand-chose. Il y a un petit effet de la compétence scientifique, c'est-à-dire que plus vous êtes compétent en sciences, effectivement, plus vous faites confiance aux aliments transgéniques. Je ne sais pas ce que ça donnerait ce sondage-là en France, enfin en Europe, on va dire. À mon avis, ça serait très différent comme réponse. Donc vous voyez ici, c'est l'identité politique, ici, c'est la religion. Alors, je ne vais peut-être pas décrire toutes ces vignettes, mais c'est exactement le même message. C'est-à-dire que ce qu'on avait remarqué sur la compétence scientifique, eh bien, on peut le transposer sur l'enseignement scientifique. Autrement dit, enseigner des sciences, ça ne permet pas tant que ça d'exercer son esprit critique. Ce qui fait mal, puisque c'est le fondement de l'activité du scientifique. Voilà. Alors, vous allez me dire, ça c'est vraiment inquiétant, c'est nouveau. Alors, on a cité Russell. Moi, je vais vous citer Weber, par exemple. Max Weber, début du siècle, qui nous dit, la tâche primordiale d'un professeur capable est d'apprendre à ses élèves à reconnaître qu'il y a des faits inconfortables. J'entends par là des faits qui sont désagréables à l'opinion personnelle de l'individu. En effet, il existe des faits extrêmement désagréables pour chaque opinion, y compris la mienne. En France, par exemple, il est extrêmement désagréable à beaucoup de gens qu'un aliment transgénique ne soit pas toxique par essence. Mais voilà, c'est très très compliqué de faire passer cette idée. Et moi, c'est en ce sens que je comprends le scepticisme initial sur les faits. Il faut accepter les faits tels que la science va les révéler et non pas partir sur des a priori et toujours vouloir les confirmer, les confirmer, les confirmer. Alors, on pourrait aussi citer Bachelard. Donc la formation de l'esprit critique, la science s'oppose absolument à l'opinion, on ne peut rien fonder sur l'opinion, il faut d'abord la détruire. Elle est le premier obstacle à surmonter pour constituer des savoirs. Bien sûr qu'il est légitime d'avoir des opinions, il ne faut pas lui faire dire n'importe quoi. Les opinions sont légitimes, mais il ne faut pas les confondre avec des connaissances scientifiques et des savoirs. Voilà, et donc ce n'est pas des problèmes nouveaux du tout. Ce qui est nouveau, comme l'a dit Nechette, c'est Internet, qui fait que ça devient probablement vraiment très envahissant, mais ce ne sont vraiment pas des problèmes nouveaux. Alors, moi, ce dont je vais vous parler ici, ce sont des données que j'ai recueillies moi-même en formation. et que j'ai recueilli avec des professeurs de sciences. Donc, j'attire votre attention sur le fait que c'est pas scientifique dans le sens où, quand on fait des questionnaires, il faut vérifier plein de choses, la validité interne des questions, etc., etc. Et beaucoup des réponses à ces questionnaires, je les ai obtenues avec des gens comme vous qui m'écoutez, à qui j'avais donné un boîtier de vote. Et donc, je leur pose des questions, et ils votent. Et après, on voit le résultat des questions auxquelles ils ont répondu. D'accord ? Donc, c'est pas, je n'ai aucune prétention à dire que c'est vrai pour tout le monde et que c'est absolument fiable. Mais vous verrez que quand même, ça donne pas mal d'indications. Alors, comment je m'y suis pris ? J'ai interrogé sur une période de 5 ans à peu près 800 professeurs de sciences dans plusieurs académies. Et à chaque fois, je leur posais les mêmes questions. Donc, ça finit par faire quand même une certaine masse. Et les questionnaires, ils étaient toujours faits de la même façon. Voilà, j'affirmais quelque chose. Par exemple, la vaccination comporte plus de bénéfices que de risques. Et je leur demandais de se positionner par rapport à cette affirmation de façon simple. Est-ce que ce que je viens d'écrire, c'est en accord avec les connaissances scientifiques actuelles ? Est-ce que c'est en contradiction avec les connaissances scientifiques actuelles ? Est-ce que ça fait l'objet d'une controverse scientifique ? C'est-à-dire, est-ce que ben finalement, la question n'est pas tranchée sur le plan scientifique ? Ou bien je ne sais pas. Voilà. Alors, notez bien que jamais, je ne demandais s'ils étaient pour ou contre quoi que ce soit. Leur opinion sur la question, je ne leur demandais pas. Par exemple, ici, je ne me serais pas permis de leur demander s'ils vaccinaient leurs enfants. Ce n'est pas ça la question. Donc, vraiment, c'est, d'après vous, est-ce que cette phrase est conforme au consensus scientifique ? Alors, vous avez vu que tout ce que j'ai choisi ici, c'est pas n'importe quoi. C'est des questions qui sont extrêmement débattues dans la société, mais c'est des questions, alors on appelle ça les questions socialement vives dans les programmes scolaires. C'est-à-dire qu'on sait que c'est des questions qui vont être clivantes, qui vont générer des affrontements. Voilà. Alors, je vous montre, je les passe pas toutes en revue. Je vous montre le type de réponse que j'obtenais en direct. Voilà ce que ça donne pour la vaccination. Donc là, c'est les profs de SVT, donc il n'y a pas de souci avec la vaccination. Ils sont très massivement en accord avec cette idée que la vaccination comporte plus de bénéfices que de risques, heureusement. Mais sur d'autres questions, ils ne sont pas très différents de la population en général. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous verrez que le taux de profs qui reconnaissent qu'ils ne savent pas est extrêmement faible. Extrêmement faible. Alors là, c'est logique, mais vous verrez que parfois, même si les réponses sont tellement répartis qu'il y en a au moins les deux tiers qui ont faux, parce qu'on ne peut pas, c'est A, c'est B ou c'est C, c'est exclusif, ça ne peut pas être les deux ou les trois. Donc forcément, il y a beaucoup de réponses qui seront fausses, mais peu se rendent compte qu'ils ne savent pas. Alors, autre exemple, ici, l'impact des ondes électromagnétiques, mais basiques, le Wi-Fi, etc., n'a pas d'impact mesurable sur la santé. Voilà, là, typiquement, vous voyez que les réponses sont extrêmement bien réparties, mais presque personne dit qu'il ne sait pas. Voilà, on verra que quand on les interroge, finalement, ils ne savaient pas, parce que personne n'a fait l'effort de se documenter en réalité. C'est juste, j'en ai entendu parler, donc j'ai l'illusion de savoir, parce qu'on en parle tellement. Et pour finir, alors voilà, ça c'est quand même un peu plus inquiétant. Alors ça, c'est des exemples de salles, ça veut dire une cinquantaine de personnes. C'est des choses qui s'affichent en direct. Sur les médicaments homéopathiques qui sont plus efficaces qu'un placebo, mais il y a quand même 23% là, des profs de SVT qui pensaient qu'effectivement, c'était plus efficace qu'un placebo. Et surtout, vous en avez aussi 20% qui pensent qu'il y a une controverse scientifique à ce sujet. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a une controverse, oui, mais est-ce une controverse scientifique ? Non, non, évidemment que non. Voilà, alors là, vous voyez, j'ai classé juste sur 250. Alors, 250 professeurs, ça correspond en fait à la campagne 2019. Donc, j'ai vu à peu près 250 profs. Et là, je vous montre le pourcentage de professeurs qui connaissent le consensus scientifique, c'est-à-dire qui choisissent la bonne réponse. Alors, ici, c'est par exemple sur l'impact de la pollution sur l'incidence du cancer, c'est très très faible, très 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 faible. Sur la vaccination, c'est très bien. Sur le réchauffement climatique, c'est très bien. Vous voyez, on n'est pas aux États-Unis. Ici, ça fait pas vraiment débat. Le réchauffement climatique, ça fait un peu débat, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis. Par contre, les OGM, ça oui, ça fait débat. Donc, il n'y a que 30% qui connaissent le consensus scientifique. Alors, pesticides et cancers, là c'est normal. Hein, c'est le reflet, en fait, du bain médiatique dans lequel on est. Mais vous verrez qu'on peut faire mieux. Voilà. Donc, voilà ce que ça dit. Ensuite, Ce qui m'a intéressé aussi, c'est le nombre, c'est le pourcentage de profs qui identifient à tort une controverse scientifique. C'est-à-dire qu'ils vont imaginer qu'il y a, par exemple, une controverse scientifique sur la toxicité des OGM ou des ondes. Vous voyez, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et donc, en fait, ils ne savent pas vraiment ce qu'est une controverse scientifique, et il suffit de leur expliquer, et ça s'arrange très très bien. Voilà. Et enfin, donc, le pourcentage de professeurs qui répond qu'il ne sait pas, dans certains cas, vous voyez, par exemple, sur, je ne sais pas moi, les OGM, c'est moins de 10%. Moins de 10% qui reconnaît que, ben, il ne sait pas si c'est toxique ou c'est pas toxique. Et donc, cette aptitude à reconnaître qu'on n'a pas fait l'effort suffisant pour se documenter, donc qu'on ne sait pas, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler. Voilà. Donc, la conclusion qui vient quand on a fait ces sondages, c'est que il est nécessaire c'est paradoxal, mais d'apprendre aux enseignants qui enseignent les sciences comment on produit des connaissances scientifiques. Ça, c'est la première chose. Comment on les produit, comment on va les diffuser à la fois dans le milieu scientifique et dans le grand public. C'est-à-dire suivre le cheminement d'une information dans la presse, la télé, les médias, les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait, notamment avec l'aide d'un prof documentaliste. Ensuite, c'est nécessité de comprendre comment s'établit un consensus. Alors l'exemple type, c'est le GIEC, hein. Voilà, ça tout le monde connaît. Et enfin, la nécessité de faire la différence entre une controverse scientifique, une vraie, celle que vous ne voyez jamais parce qu'elle se déroule dans des laboratoires, etc., et une controverse socio-technique hyper-médiatisée, c'est-à-dire toutes ces questions dont je vous ai parlé, qui comportent une toute petite part de science et une grosse part d'autre chose, d'opinion. Alors, pour vous montrer que c'est vraiment important, voici par exemple un manuel de géographie. Donc c'est Philippe Hubert qui me l'a donné, je ne sais pas si c'est des secondes ou c'est du lycée. Seconde, voilà. Les causes du réchauffement climatique actuel. Alors, première hypothèse, ici, on vous dit une partie des scientifiques et les mouvements écologistes, déjà, bon, il se trouve que là, ils sont d'accord, mais souvent, ils ne sont pas d'accord, pensent en gros que c'est le CO2 qui est responsable, ok. Petit b, c'est la nature qui est responsable. D'autres scientifiques, des climatologues, etc., et on vous explique les cycles naturels d'évolution du climat sur une plus longue période. Et débrouillez-vous avec ça. Voilà. Là, il y a quand même une énorme problème, c'est que ça fait l'objet d'un immense consensus scientifique. Ça, non, on ne peut pas présenter ces deux arguments en même temps. Alors, je vous rassure, vous ne trouverez jamais ça dans un livre de SVT. Ça, c'est impossible. Mais on le trouve dans un livre de géographie, peut-être de physique, je ne sais pas. Donc il y a un gros besoin. Alors, nous, ce qu'on fait à Toulouse, avec l'Institut de recherche pour l'enseignement des sciences, eh bien, en fait, on a quatre axes de travail, et notre public, c'est des profs en formation, mais c'est également des élèves, puisque les professeurs du groupe élaborent des activités qui sont en libre service sur notre site, qu'ils testent pour justement essayer de développer l'esprit critique. Et donc là, on est assez redondant tous, hein. C'est-à-dire que la première chose, c'est essayer d'expliquer comment la science, ça fonctionne, comment on publie un résultat, comment il est confronté à l'évaluation par les pairs, etc., etc., etc. Un peu de méthodologie, qu'est-ce qu'une étude de cas témoin, qu'est-ce qu'une une méta-analyse d'études de cohorte, etc. C'est technique, mais il faut en passer par là, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Très bien. Comment la science se diffuse à la société? Alors là, on prend l'exemple de Google, hein, les biais de confirmation, etc. Et puis surtout, quels biais affectent le jugement? Les fameux biais cognitifs. Et on a toutes sortes d'activités qui fonctionnent très bien. Alors, le dernier point, c'est un petit peu l'application de tous les autres, hein. C'est comment l'image de la science est détournée. Donc ici, vous avez une théorie du complot. Ça peut être aussi les pseudo-sciences, etc. Ça, c'est un petit peu l'application du reste. Alors, je vous donne un exemple. Est-ce que ça marche? Je vais être, optimiste. Moi, j'ai toujours eu l'impression que ça marchait. En tout cas, c'est le retour que nous font les profs. Mais des fois, ils vous disent des choses pour vous faire plaisir. Donc, ça ne veut pas dire que ça marche vraiment. Donc, l'an dernier, sur les conseils d'un jeune collègue psychologue, Franck Amadieu, on a essayé de le mesurer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que sur une formation de 2 jours, au lieu de faire réagir les gens en direct et en public, on leur a fait remplir un questionnaire tranquillement sur papier. De façon anonyme, évidemment. Donc, vous avez toujours les mêmes items ici. Toujours, c'est en accord avec les connaissances. Ça n'est pas, il y a une controverse, ou bien je ne sais pas. Mais, sur les conseils de Franck, j'ai rajouté ici, certes, je dis quelque chose, mais je n'en suis pas très sûr. Alors, je coche ici. Ou bien, J'en suis sûr, mais je peux changer d'avis. Et le troisième item, c'est j'en suis sûr et je ne changerai donc pas d'avis. Alors ça, c'est très intéressant. Vous allez voir pourquoi. Parce que si vous cochez j'en suis sûr et je ne changerai pas d'avis, vous sortez du contexte de la connaissance. C'est-à-dire que ça devient un dogme, ça devient une opinion. Moi, si je vous dis, par exemple, l'homéopathie, c'est un placebo, j'en suis sûr, mais je peux changer d'avis. Je sais même très précisément ce qui pourrait me faire changer d'avis. Ce sont des études randomisées, en double aveugle, répétées, répliquées par d'autres, etc., etc. Donc, ça, c'est très important de leur faire comprendre que cette attitude-là n'est pas dans le domaine de la connaissance, c'est un domaine de l'opinion. Après tout, personne ne peut vous obliger à changer d'opinion. Mais dans le domaine de la connaissance, il faut admettre que ça peut changer. Alors, je vous donne quelques exemples. Alors, l'échantillon est très réduit, puisque je l'ai fait juste en formation l'an dernier. Par exemple, les médicaments homéopathiques sont plus efficaces qu'un placebo. Donc, vous avez ici, vous voyez, à peu près 40% des profs qui pensent que c'est en contradiction avec les connaissances, comme l'échantillon général, donc c'est relativement représentatif. Très peu qui ne savent pas. Quelques adeptes d'homéopathie. Et puis, la controverse, la pseudo-controverse scientifique, voilà, qui est ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que ils ont rempli ce questionnaire en rentrant, ici. Ensuite, ils ont eu 2 jours de formation. Alors, assez complète, sur beaucoup de choses. Et à la fin, je leur ai remontré ce tableau, et je leur ai dit, voilà, avant de cocher à nouveau ce que vous pensez de ces items-là, vous allez en prendre un par binôme. Puis pendant une demi-heure, vous allez sur Internet et vous allez essayer de vous forger un jugement, pas seulement une impression. Et ce jugement, une fois que c'est passé, au bout d'une demi-heure, il dit, ben voilà, nous, sur Internet, on a trouvé ça, ça et ça. Mais attendez, avant, je leur avais expliqué où on trouve un consensus scientifique, sur quel type d'organisme on est capable d'aller, etc., etc. Et chaque binôme d'enseignants a exposé lui-même ses propres conclusions obtenu en suivant la méthode que j'avais donnée. C'est très important, parce qu'au début, quand je commençais ce genre de choses, vous voyez, par exemple, vous posez une question, ah, toutes les réponses sont extrêmement distribuées, immédiatement, ils vous disent, mais monsieur, c'est quoi la bonne réponse? Et moi, comme je l'ai dit, je la donnais. Donc, première question sur l'homéopathie, pum, je perds 40% de l'assistance qui se soigne par l'homéopathie, ils font la gueule. Deuxième question sur le nucléaire, troisième question sur les OGM, et ainsi de suite. Et au bout d'une demi-heure, vous avez une salle qui est hostile parce que vous les avez agressés dans leurs opinions profondes. Voilà. Alors maintenant, je ne donne plus jamais de réponse. Et je dis là ce que j'ai dit tout à l'heure, ça vous intéresse vraiment? Faites donc l'effort de vous documenter comme je vous ai appris. Vous n'avez pas envie de faire cet effort? Mais ça veut dire que ça ne vous intéresse pas. Eh bien, dites simplement, je sais pas. Et alors là, c'est nouveau, si vous voulez, c'est que j'essaie de les outiller, et après, c'est les profs eux-mêmes qui argumentent devant leurs collègues. Et donc, le résultat, regardez ce que ça donne. C'est-à-dire que là, il n'y en a plus un seul qui pense que les médicaments homéopathiques sont plus efficaces qu'un placebo. Il n'y en a plus un seul qui pense qu'il y a une controverse scientifique. Si c'est moi qui l'avais dit, ça n'aurait pas eu cet effet, j'en suis à peu près convaincu. Si c'est un collègue qui le dit, à ce moment-là, ça a marché. Voilà. Et donc, je trouve que cette méthode, finalement, elle est pas mal. Alors, pareil, est-ce que la consommation de fruits et légumes produits par l'agriculture conventionnelle, donc pleine de pesticides, ça expose le consommateur à des doses de pesticides préjudiciables à sa santé? Donc, moi, je dis rien. Au départ, bien entendu, tout le monde pense que c'est vrai, parce que ça, c'est le flux médiatique. Donc, ils pensent que j'ai vu, bien sûr, tout le monde le sait, les légumes et tout ça, c'est toxique, il y a des pesticides. Et toujours avec le même système, vous voyez qu'à la fin, donc là c'est remarquable, personne ne dit qu'il ne le sait pas ici, personne, tout le monde le sait, tout le monde a un avis. Et puis au bout du compte, ici je vois que la majorité, finalement, ils pensent, ils ne sont pas arrivés à se faire une opinion, tout simplement parce qu'une demi-heure, ça n'a pas été suffisant. Et effectivement, les profs qui ont rapporté le fruit de leur enquête, ils ont dit, bon mais honnêtement, c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est quoi préjudiciable à la santé, après tout? C'est compliqué. Est-ce que entre toxique, ça va vous tuer et ça pourrait influencer sur un petit paramètre, etc., etc. Voilà. Donc, mais vous voyez que le fait de les outiller, de leur faire comprendre qu'il faut prendre du temps, et ensuite le fait qu'ils échangent entre pairs, ça finit par fonctionner. Alors ici, par exemple, l'exposition aux antennes de téléphonie mobile, vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Ils pensaient massivement qu'il y avait une controverse scientifique. Et quand ils font une enquête eux-mêmes sérieuse et documentée, ils se rendent compte qu'en fait, non, la controverse, elle est tout sauf scientifique. Il n'y a pas de controverse scientifique sur le fait qu'il y a des électrosensibles, par exemple. Voilà. En fait, on n'en a jamais vu. On n'en a jamais vu réellement sur le plan scientifique. Voilà. Donc tout ça m'incite à penser que ça marche. Et alors, vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, au départ, beaucoup cochent « j'en suis sûr et je ne changerai pas d'avis ». Après tout, quand on en est sûr, on n'a pas vraiment de raison de changer d'avis. À la fin, presque personne ne coche cette case-là. Ils ont conscience qu'en fait, ils peuvent changer d'avis, même sur des sujets. Et vous avez vu que c'est des sujets chauds quand même, hein. Des sujets où tout le monde est un peu engagé. Et reconnaître qu'on ne sait pas, alors au début on en a très peu, et à la fin, on en a plus, c'est un comble. Puisqu'ils ont suivi, une formation. Donc, vous pourriez dire, la formation, elle ne marche pas, puisqu'ils savaient et là, ils ne savent plus. En fait, si, c'est très bien. Ils reconnaissent qu'ils ne savent pas. Alors, là, je ne vais pas vous bassiner avec ça, c'était des exemples d'activités qu'on fait avec des élèves. Je vais juste vous en montrer une, hein, que Philippe Hubert, qui est là, a fait avec ses élèves, et qui est quand même très, très, très intéressante. On va montrer à des élèves, par exemple, ce graphique, où on va corréler le nombre d'individus diagnostiqués autistes, donc prévalence de l'autisme aux États-Unis. Donc, ça augmente vraiment très, très fort, vous voyez, ici. Et puis ici, la corrélation, c'est la courbe, c'est le tonnage de glyphosate, hein, toujours le même, qu'on répand sur du maïs et du soja. OK, vous montrez ça à des élèves, interprétation, c'est évident. C'est évident que ces produits chimiques, c'est très très mauvais pour la santé des enfants, c'est évident. Et après, d'après ce qu'il me dit, il passe à une autre corrélation, sans commenter, où là, vous avez exactement la même chose, donc la prévalence de l'autisme, et ici, c'est le chiffre d'affaires de l'alimentation biologique. Corrélation, elle est peut-être meilleure même. Et alors, interprétation. Ah, là, interprétation, non, elle ne vient pas. D'accord. Alors, et donc, je trouve une très bonne chose, c'est-à-dire qu'on va amener les enfants à eux-mêmes se rendre compte qu'ils peuvent être manipulés, en fait. Voilà. Et ça me semble une bonne voilà. Alors ça, c'est extraordinaire, je ne peux pas m'empêcher de vous le donner. Il y a un site spécialisé, Spurious Correlations, où il n'y a que des corrélations fallacieuses. Alors, elles sont dues au hasard, ces corrélations, ce qui n'est pas le cas de celles-là. Là, c'est des choses qui évoluent au cours du temps. Alors là, c'est extraordinaire. Vous avez, par exemple, la corrélation entre l'âge de Miss America et le nombre de personnes assassinées avec de la fumée, de la vapeur, des objets chauds aux États-Unis. Alors, c'est extraordinaire. Alors, il y en a plein. Il y en a des dizaines. Donc, c'est assez amusant. Maintenant, encore plus provocateur, est-ce que l'enseignement des sciences peut nuire à l'esprit critique? Je ne vais pas me faire que des amis, je sens. Eh bien, malheureusement, oui, ça peut arriver. Enfin, moi, je l'ai vu, surtout, enfin, je le vois, oui. Je le vois assez souvent, notamment dans les livres scolaires. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est de renforcer la confusion entre causalité et corrélation. C'est-à-dire que, alors qu'elle soit... Que ce soit une corrélation temporelle ou une corrélation géographique. En réalité, dans les cours de biologie, on fait énormément le renforcement de cette confusion. Énormément. Il suffit d'ouvrir un livre de biologie pour s'en rendre compte. Alors, je vous montre quand même quelque chose. Ici, vous avez, au cours du temps, ça c'est des manuels scolaires, tout ce que je vous montre. Un indice de diversité des espèces d'oiseaux, très bien. OK, c'est relativement stable, on va... admettre comme ça, c'est relativement stable, sauf dans les champs cultivés. OK ? On voit qu'à partir de 75, à peu près, bon, 77, bien peut-être qu'on a modifié quelque chose dans les pratiques agricoles qui est défavorable aux oiseaux. Voilà. Quoi ? On ne sait pas. Mais on va vous guider un peu. Et on vous montre ça. Surface de champs traitée aux pesticides à milliers d'hectares. Alors, c'est, si vous voulez, ce qu'on voit ici... C'est donc quelque chose qui n'a pas forcément de rapport avec ce qui a été mesuré ici. Ça n'a pas été fait nécessairement au même endroit. Mais même si vous regardez dans le détail, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une chute rapide, puis peut-être que ça ralentit ici. OK. Alors le phénomène, il commence là. OK, peut-être qu'il est concomitant avec l'augmentation des pesticides. Oui, mais là, ça ralentit, alors que l'épandage de pesticides augmente. Oh, c'est pas grave. Voilà. Et donc ça, c'est des activités dites scientifiques qu'on propose à des enfants. Donc, on sait très bien, si vous voulez, c'est toujours la même histoire, scepticisme initial sur les faits. Non, là, on sait où on veut aller, Et alors on va inventer au besoin des documents pour essayer d'accréditer ces thèses. Ça, je suis désolé, ce n'est pas une activité de science. C'est ce qu'on veut, mais ce n'est pas de la science. Après, encore plus fréquent, c'est le renforcement du sophisme post hoc ergo propter hoc. Donc je parle latin maintenant. En gros, ce qui précède est la cause de ce qui suit. Et alors, ça c'est typique. Qu'est-ce qu'on fait? On met une souris dans une boîte, on mesure le taux d'oxygène dans la boîte, il diminue, bien sûr qu'il diminue, bien sûr que la souris elle respire, etc., etc. Mais il manque quand même quelque chose d'essentiel. C'était comment avant qu'on mette la souris? Est-ce que c'était stable? La souris, elle consomme de l'oxygène? Oui, mais elle est chaude aussi, la souris. Et cette sonde, je peux vous le dire, elle est sensible à la température. Autrement dit, il n'y a aucun témoin dans cette expérience. Mais comme on connaît le résultat à l'avance, on va juste faire un peu de biais de confirmation et on va dire, ah ben oui, la souris consomme de l'oxygène. Inutile de vous dire que si vous présentez des expériences comme ça dans n'importe quelle mémoire de master, vous allez avoir une très très mauvaise note. Il est évident qu'il faut un témoin dans cette expérience. Un témoin, voir que la sonde est stable au cours du temps, au moins un témoin de température pour voir si la température, etc., etc. Il y a l'humidité qui s'accumule. Donc, autrement dit, sur le plan scientifique, c'est très mauvais. Même si il est vrai que la souris consomme de l'oxygène, ça c'est pas le problème. Ça c'est pas le problème. Alors encore plus fréquent, voilà, on va faire démarrer. Vous voyez, ça c'est le temps ici, et puis là c'est peu importe ce que c'est. C'est le récepteur à une hormone. On injecte une hormone et on voit que ça augmente le taux de récepteur. Oui, c'est évident. Mais il était stable avant le taux du récepteur. Et si j'injecte pas l'hormone, qu'est-ce qui se passe? Et cette histoire de témoin, c'est Claude Bernard quand même qui l'a formalisé. Ça date pas d'hier. Et donc là, on a vraiment des pratiques dites scientifiques qui renforcent cette idée que lorsqu'un événement se produit, il est la cause de celui qui suit. Voilà. Alors que c'est pas forcément le cas. Alors, j'en ai plein, des comme ça, je ne vais pas toutes vous les montrer. Ensuite, je ne sais pas si vous êtes arrivé, ouvrez donc un livre de science. Il n'y a que des images. On dirait les revues qu'on a chez le coiffeur, il n'y a que des images. Très peu de textes, beaucoup d'images. Ah bon? Comment ça se fait? On fait des sciences et pourtant, c'est illustré de partout, etc., etc. Et bien entendu, on va essayer de les interpréter, sauf que souvent, elles ne montrent pas ce qu'elles sont censées montrer. Et quand l'image qu'on aimerait avoir pour illustrer notre propos n'existe pas, eh bien, on l'invente. Alors, je vous montre un exemple ici. Ça, c'est formidable. Ceci est censé être le caryotype d'un ovocyte, donc féminin. Ceci est censé être le caryotype d'un spermatozoïde. Sauf que ni les ovocytes ni les spermatozoïdes ne se divisent. Il est donc impossible d'obtenir un caryotype. Bon, ça, c'est je parle aux biologistes. Donc, et puis ensuite, on vient de faire la méiose, etc., etc. Le minimum serait que ces chromosomes-là, ils aient qu'une chromatide et pas deux. Autrement dit, c'est un monstre, cette image. C'est un monstre. C'est évidemment inventé. Regardez, on voit très bien. C'est rigoureusement la même image. Ici, on a mis le chromosome X, ici, on a mis le chromosome Y. Et donc, vous voyez, dans un livre de science, on peut très bien avoir des images inventées et qui disent à peu près n'importe quoi. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, tu exagères. Tu as pris ça dans un livre. Non, tous, ils l'ont, ça. Tous. Par contre, si vous allez sur Google, vous faites caryotype de spermatozoïde, ça ne renvoie qu'à des sites de pédagogie des SVT. Autrement dit, c'est quand même... Moi, je trouve que c'est un problème. Voilà. Donc, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Ou, toujours pareil, ça a rapport avec le scepticisme initial, je sais où je vais, peu importe le chemin que je prends. Voilà, j'ai pas le document, je l'invente, j'ai pas l'image, je l'invente. Ça, je trouve que c'est quand même un manque de rigueur. Voilà. Et puis le dernier point, ça va faire plaisir peut-être à Denis. Alors, c'est bloqué peut-être là. Voilà, les généralisations abusives. Alors, je vais pas vous bassiner avec les programmes scolaires, mais... Souvent, on fait une observation en biologie, puis on va généraliser à tout le règne animal, à tous les êtres vivants, etc., etc. Donc, je vais juste faire ça sous forme de boutade. Voilà. Ici, vous voyez des brebis avec leurs petits. Et donc, finalement, le biologiste qui se déplace en voiture, il voit ces brebis, elles ne sont pas comme chez nous. Tiens, il va dire, tiens, ici, les moutons sont noirs. Et le physicien, est-ce qu'il dirait la même chose, le physicien? Non, le physicien, il va dire, tu veux dire que certains moutons sont noirs. Et le mathématicien, il dit quoi? Ah non, non. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe 4 moutons dont au moins un côté est noir. Voilà. Et donc, malheureusement, les SVT, souvent, ont tendance vraiment à faire des généralités à partir d'un tout petit nombre d'observations, et c'est un des biais cognitifs qui a été montré. Là, j'ai regardé là dans la jolie rosace, là où il y en avait des milliers, il y était celui-là, la généralisation abusive. Et oui, mais vous voyez, là, on fait un cours de science. Enfin, là, non, là, je mens, c'est moi qui l'ai inventé, ça. Enfin, je l'ai repris d'un humoriste, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais voilà, c'est très, très, très fréquent. Voilà, et alors, le dernier point qui, me semble-t-il, renforce le biais de confirmation, c'est que lorsque un professeur veut faire ce qu'on appelle une démarche d'investigation, allez, on se débrouille pour faire émerger une problématique, puis une hypothèse qui pourrait régler la problématique, et enfin, on va la tester expérimentalement. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que on ne va tester que la bonne hypothèse. Et puis, si les élèves n'arrivent pas à les mettre eux-mêmes, eh bien, on va la donner nous-mêmes. Alors, le problème, c'est que on ne teste que la bonne hypothèse. Donc, ça marche toujours. Voilà, mais c'est pareil. Moi, je vais sur Google, je me demande si tel produit est dangereux. Oh ben oui, je trouverai forcément un site qui me dit que c'est dangereux. Donc, je vais renforcer encore mon hypothèse. C'est le biais de confirmation. Voilà. Donc, moi, vous allez dire, je suis sévère, mais je m'inclus dans le lot, oui, puisque j'y participe à tout ça. Mais il me semble donc que l'enseignement des sciences, parfois, non, il nuit à l'esprit critique. Voilà. Alors, juste, je voudrais citer et les remercier donc mes collègues du groupe IRES Esprit Critique, donc Philippe Hubert qui est ici présent, qui est responsable du groupe avec moi, et puis après nous avons Benjamin, que vous le connaissez puisqu'il a parlé, Aline Bousquet, c'est très original, c'est une prof documentaliste et elle nous est extrêmement utile justement pour débusquer le chemin que prend l'information dans Google, Internet, etc. Elle nous apporte beaucoup. Fabrice Setz, il est prof de SVT, Fabrice Tavera aussi, Karine Ramon, elle est prof de physique-chimie, et nous avons Frédéric Pitou, qui est astronome à l'Institut de recherche en astrophysique, et qui est aussi très actif. Voilà, merci de votre attention.